Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Campus Paris 93.9 FM. Nous sommes le 1er octobre 2025, il est 19h et vous écoutez la matinale.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. L'actu engagée.
Un petit village antifasciste vers la Sorbonne.
La culture décalée.
J'ai découvert ses albums et j'ai pété une pile.
Le sujet étudiant.
Pour moi, la démocratie étudiante, elle se fait dans les AG, dans les mobilisations.
Et ce qui se passe en Ile-de-France.
Le but, c'était en fait de préserver les terres agricoles autour de la capitale.
Du lundi au jeudi, de 19h à 20h, sur Internet, sur le DAB+, et sur le 93.9 FM.
Quelle merveilleuse météo! Le soleil revient, les journées raccourcissent, les décorations de Noël sont déjà installées rue du Faubourg Saint-Antoine. Oui, hier, en me baladant, je remarque en effet ces décorations étoilées pendues entre les immeubles de la rue, au magasin Moult et Marié, Coquelicot et Sparadrap. Décorations installées, certes, mais non allumées. Imaginez, un 30 septembre, des décorations de fête allumées à nos fenêtres. Diable, que leur prend-il de si tôt ? Étonné, quoique subjugué, mais farouchement troublé, je me mets à décrier cet acte que je considère malveillant. Diantre ! La Toussaint n'est pas encore passée, que la nativité est déjà célébrée. Ni une ni deux, le sang me monte aux yeux, aux deux yeux montés de sang qui ont vu de leurs yeux vus ces décorations décorant cette rue reliant la place de la Nation à celle de la Bastille. Prêt à en découdre, je retrousse mes manches, désolidarise mes perles d'oreilles, tends le poing vers le ciel, et puis je me rappelle. Il y a pire dans la vie. Il y a bien pire dans la vie. Il y a le chômage qui me fend la peau depuis un mois maintenant, le déni démocratique qui perdure depuis un an maintenant, la montée du fascisme un petit peu partout dans le monde, le génocide à Gaza, la colère populaire non écoutée, des vice-présidences offertes à l'extrême droite à l'Assemblée, des migrants tués en mer, des pénuries de médicaments vitaux, une inflation rocambolesque qui fait que des milliers de personnes doivent aujourd'hui choisir entre se nourrir et se chauffer. Alors je re-regarde ces décorations de Noël installées entre les immeubles de cette rue parisienne, de cette longue rue parisienne qui relie la place de la Bastille à celle de la Nation. Et je me dis qu'elles seront chouettes, ces décorations, pour illuminer les prochaines manifestations populaires. Aujourd'hui, en première partie d'émission, Constance recevra Lucie Larrière, responsable de l'antenne Île-de-France de Règles élémentaires, première association française de lutte contre la précarité menstruelle. En deuxième partie d'émission, Francesca recevra Ève-Marie Boucher, coordinatrice du festival Images mouvementées d'Attaque. Pour les chroniques, Hugo nous parlera d'une des conséquences de la condamnation de Nicolas Sarkozy et Éloigne de cinéma. Et enfin, Félix nous partagera les dernières actualités.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris 93.9 FM et c'est toujours la matinale. Comme je le disais en première partie d'émission, nous recevons Lucie Larrière en mars 2023. Pour faire un petit background, le gouvernement annonçait le remboursement des protections périodiques réutilisables pour les jeunes et les plus précaires, encore en mai dernier. La ministre à l'égalité hommes-femmes assurait, Aurore Berger, assurait que ce remboursement allait arriver, je cite, d'ici la fin de l'année 2025. Nous sommes aujourd'hui le 1er octobre et toujours rien, et donc pour en parler avec nous ce soir, vous êtes accueillis par Constance et vous venez, Lucie Larrière de l'association Règles élémentaires. Bonsoir.
Bonsoir. Merci pour cette petite introduction. On va donc parler de précarité menstruelle et du tabou des règles et des politiques publiques pour y faire face. Mais avant de décortiquer tout ça, on va revenir à la base. Lucie Larrière, vous êtes de l'association Règles élémentaires. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que vous pouvez nous présenter votre association, ce pourquoi elle milite et pourquoi elle a été fondée ?
Alors, Règles élémentaires, elle a été fondée il y a 10 ans maintenant, donc en 2015, par Tara, qui était étudiante et qui a fait un Erasmus en Angleterre. Et elle s'est rendue compte qu'en Angleterre, pendant les maraudes, donc quand on distribue des produits aux personnes sans abri, les associations là-bas distribuaient des produits périodiques. Quand elle est revenue en France, elle s'est rendue compte qu'aucune association ne distribuait ce type de produits en France. Donc elle a créé Règles élémentaires, qui est une association qui n'ouvre pas ses portes pour les personnes qui en ont besoin directement, mais pour les associations, et qui donc, l'action historique, c'était de collecter des produits périodiques via la mobilisation citoyenne. Donc on mobilise toutes les personnes qui le souhaitent à organiser sa propre collecte, et ensuite on met en relation avec des associations partout en France, qui ensuite redistribuent aux personnes qui en ont besoin. Ça, c'est notre action historique qu'on continue encore aujourd'hui. Et à côté de ça, au bout de 2-3 ans, on s'est rendu compte qu'en plus du manque matériel de produits, notamment dans les associations, mais en fait dans tous les aspects de la société, il y avait un vrai manque de dialogue et un tabou en fait, autour du sujet des règles. Donc pour briser ce tabou, on a commencé à faire des ateliers de sensibilisation autour de la santé menstruelle, de la physiologie, déconstruire les clichés, transmettre aussi plus d'informations sur la précarité menstruelle qui en 2015 n'était pas du tout connue, c'était un terme qui vraiment n'était pas du tout utilisé. Aujourd'hui il est beaucoup plus médiatisé et c'est tant mieux. Donc c'est aussi toutes ces actions de sensibilisation qu'on fait maintenant dans les établissements scolaires, dans les prisons, dans les entreprises, les collectivités et beaucoup dans les associations évidemment. Et pour finir, on a un troisième axe qui est autour du plaidoyer, donc changer les lois. C'est notamment un peu là-dessus qu'on va parler aujourd'hui, mais donc d'essayer d'appuyer pas mal de sujets auprès des politiques publiques et auprès des pouvoirs publics pour faire avancer les choses sur les règles, sur la santé menstruelle. Voilà, de manière assez globale.
Et justement, vous disiez qu'on parle de plus en plus de la précarité menstruelle. Comment est-ce qu'on peut la définir ? À partir de quel seuil on peut être considéré comme étant en situation de précarité menstruelle ? Et si le chiffre existe, combien de personnes ça touche à peu près en France aujourd'hui ?
Alors, la précarité menstruelle, on va dire qu'il y a plusieurs manières de la définir. Il y a plusieurs aspects, en fait, dans la précarité menstruelle. Le premier qui vient souvent en tête, c'est le fait de ne pas du tout avoir accès à des produits périodiques. On pense souvent aux personnes qui sont sans abri, par exemple. En fait, on va utiliser d'autres produits qu'on appelle les produits de substitution, qui vont être du journal, du papier toilette, des tissus, tout ce qui va éponger d'une manière ou d'une autre, absorber, mais qui, évidemment, n'est pas du tout adapté au corps. Ça, c'est le premier aspect, la première manière d'être en situation de précarité menstruelle. La deuxième, c'est de pouvoir s'acheter un peu de produits périodiques, par exemple un paquet, mais en fait, on aurait besoin de 2 paquets sur un cycle pour une personne. Donc, en fait, on va utiliser des produits périodiques, mais beaucoup plus longtemps que recommandé, pour pouvoir tenir sur tout le cycle. Et ça, évidemment, ça a aussi des conséquences physiques, sanitaires, de garder, par exemple, un tampon une nuit entière, plusieurs jours. Évidemment, ça a des conséquences. Et le troisième aspect, c'est le fait de pouvoir s'acheter assez de produits périodiques, mais en échange de devoir renoncer à un autre produit de première nécessité. Par exemple, on fait souvent l'image de choisir entre un paquet de pâtes et un paquet de produits périodiques. Bah, forcément, oui, on est protégé sur le moment, mais dans tous les cas, on ne vit pas une vie correcte et digne. Donc voilà, c'est les trois aspects de la précarité menstruelle en termes matériels, donc en termes de manque de produits. Et nous, chez Règles élémentaires, on aime aussi rajouter le fait que ne pas avoir assez d'informations sur sa santé menstruelle ou sur la santé menstruelle des autres, c'est aussi une forme de précarité en ce qui concerne par exemple les pathologies, donc ne pas savoir reconnaître des symptômes, ne pas pouvoir être diagnostiqué, c'est aussi une forme de précarité menstruelle.
Et est-ce qu'il y a certains publics qui sont plus touchés que d'autres aujourd'hui ?
Effectivement. Alors, les derniers chiffres qu'on a sortis en France, donc c'était en mars 2023, on a sorti le chiffre de 4 millions de personnes qui sont en situation de précarité menstruelle en France. Aujourd'hui, on considère que ce chiffre est toujours d'actualité, voire qu'il a augmenté au vu de l'inflation qu'on a pu avoir ces dernières années. Sur ces 4 millions de personnes, alors forcément, on pense aux personnes qui sont vraiment dans des situations de rue, mais heureusement, il n'y en a pas 4 millions en France. Il y a aussi toutes les travailleuses pauvres, toutes les femmes ou les familles monoparentales aussi, où il y a par exemple plusieurs personnes menstruées dans la famille et un seul revenu. Et aussi, il y a la population étudiante. Sur ces 4 millions, il y avait quasiment la moitié de ces 4 millions qui étaient des jeunes entre 18 et 25 ans. Aujourd'hui, on sait via d'autres études d'associations de précarité étudiante qui montrent que 42% des moins de 25 ans ont déjà été dans une situation de précarité menstruelle au cours des 12 derniers mois. Donc la population étudiante est fortement impactée par la précarité menstruelle.
Donc maintenant qu'on y voit un petit peu plus clair sur les données de base du sujet, est-ce que vous pouvez nous parler du dispositif qui devait être mis en place par le gouvernement, qui avait été annoncé dès 2023 ?
Effectivement, donc en mars 2023, en parallèle de l'annonce de nos nouveaux chiffres sur la précarité menstruelle, il y a eu donc la première ministre Elisabeth Borne qui a annoncé le remboursement des produits lavables en pharmacie pour les moins de 26 ans. C'est une annonce qui avait aussi pour but d'avoir un effet, d'avoir un impact. Donc nous, on n'était pas du tout au courant que cette annonce allait arriver. Et donc quelques semaines après, on a voulu se renseigner. Et en réalité, rien n'avait été encore organisé ou prévu. C'était une annonce qui, de fait, devait après donner lieu à des discussions, à des réflexions. Donc on a été notamment beaucoup en lien avec la Sécurité sociale et avec le ministère de l'Égalité sur ce sujet. Les dernières réflexions qui ont abouti donc jusqu'à cet été, ça devait être donc deux produits lavables renouvelés tous les ans, donc soit deux culottes de règles, soit deux cups, qui devaient être donc achetés en pharmacie et remboursés 60% par la Sécurité sociale et 40% par les mutuelles. Ça devait concerner donc toutes les personnes de moins de 26 ans, plus les personnes qui ont la C2S, donc la complémentaire santé solidaire. Ce qui fait en tout, selon les estimations, environ 6,7 millions de personnes en France qui seraient concernées par cette politique.
Et est-ce que c'est un dispositif qui, en l'état de ce qui était promis, était satisfaisant pour vous ?
Alors, nous, ce qui nous a satisfait, c'est qu'il y ait une première politique sur le sujet et qui tente de lutter contre la précarité menstruelle à l'échelle nationale, ce qui n'avait pas été le cas jusque-là. Donc ça, effectivement, on s'est félicité de cette politique. Après, il y a évidemment pas mal d'aspects à questionner autour de cette mesure. Déjà, le fait que ce soit des produits lavables, c'est pas adapté à tout le monde. Nous, on le voit parce qu'on travaille beaucoup avec les associations, mais il faut avoir accès à un point d'eau. Il faut pouvoir laver ses protections régulièrement. Et puis, il faut aussi être à l'aise avec ses règles de manière générale, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, du fait du tabou notamment. Et puis surtout, les produits lavables, il faut en avoir plusieurs pour pouvoir tenir tout un cycle. Et deux culottes de règles, on sait que ce n'est pas suffisant. Donc il y avait déjà cet aspect-là qui était un peu limitant. Et la deuxième limite, c'est évidemment la limite d'âge. Moins de 26 ans, c'est bien. On se doute bien que c'est compliqué de rendre cette mesure accessible à tout le monde. Mais on sait aussi que la précarité menstruelle ne s'arrête pas à 26 ans et elle concerne tous les âges et toutes les populations.
Est-ce que vous savez à combien était chiffrée cette proposition ? Quel était le budget qui était associé à cette généralisation de la gratuité pour les moins de 26 ans et les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire ?
Alors, pour vous dire où on en était avant que du coup la mesure ait été reportée, donc cet été, le cahier des charges était quasiment validé et devait être publié. Et donc, on n'a pas encore eu les négociations avec les marques qui auraient donné une vraie estimation du prix. Mais en tout cas, l'estimation qui a été faite, c'est entre 100 millions et 150 millions d'euros pour du coup ces 6,7 millions de personnes concernées.
Et est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé ensuite depuis mars 2023 ? Pourquoi finalement ça n'a pas été mis en œuvre ? Est-ce que c'est juste une question de finances publiques ? Aujourd'hui on en parle beaucoup, mais est-ce qu'en mars 2023 c'était déjà une explication qui était aussi présente ? Qu'est-ce qui s'est passé en fait concrètement pour vous ?
Alors comme je l'ai dit au début, il y avait un gros effet d'annonce. Donc en fait rien n'avait été organisé, donc on savait déjà que ça allait prendre du temps. Ce qui nous a été annoncé au début, c'était que la mesure allait prendre effet à partir de janvier 2024. Donc pour laisser le temps quand même, pas mal de modalités à mettre en place à l'échelle nationale. Donc les premières négociations ont eu lieu et puis en janvier 2024, on n'a pas eu la mise en place de la mesure. Donc ça a été retardé. On n'a pas eu forcément beaucoup de retours de la part des politiques, mais ce qui est sûr, c'est que donc fin 2023, la mesure a été votée dans le plan de loi finances 2024. Donc on avait une certitude, en tout cas à l'époque, que la mesure serait mise en place en 2024. Tout 2024, on n'a pas eu forcément de retour là-dessus. Et donc en 2025, on a commencé nous aussi à en parler aux députés pour essayer d'avoir plus d'informations de la part du gouvernement. Et donc on a eu cette question au gouvernement en mai 2025, qui a permis, enfin qui devait permettre d'avoir un peu plus de clarté sur la suite. Et donc Aurore Berger disait fin 2025. Aujourd'hui, avec le contexte actuel, il y a une semaine, on a reçu un mail de la Sécurité sociale qui nous disait que ce serait reporté sine die, donc c'est-à-dire sans calendrier pour le moment. Donc on ne sait pas pour le moment quel est le calendrier là-dessus.
On va faire une toute petite pause si c'est OK sur ces derniers mots. Merci en tout cas d'avoir répondu aux premières questions de Constance. On va faire une petite pause musicale comme je l'ai dit avec Cigarette Lighter de Japanese Telecom. C'était Cigarette Lighter de Japanese Telecom.
La matinale de 19h, 93.9 FM.
Juste avant la pause musicale, Constance recevait Lucie Larère pour discuter du remboursement des protections périodiques ou du moins du non-remboursement des protections périodiques. Est-ce que vous êtes toujours avec nous ?
Mais oui. Oui. Donc, juste avant la pause, on s'était quitté sur le fait que le gouvernement avait annoncé une mesure de gratuité des protections hygiéniques qui n'avait pas été mise en œuvre, et ce depuis mars 2023. Et donc, pour conclure là-dessus, est-ce que, pour expliquer le fait que cette proposition n'ait toujours pas été mise en œuvre, est-ce que, selon vous, ça tient aussi au fait que la proposition ne serait pas assez portée et assez revendiquée par la société civile ou les mouvements féministes, par exemple? Est-ce que votre association est isolée sur ce sujet? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu s'il y a de la mobilisation en fait sur ce sujet-là?
Alors, je pense que la première raison qui vient en tête, mais qui est aussi un peu liée à ta question, c'est le contexte actuel et les restrictions budgétaires qui arrivent un peu partout, et notamment sur les secteurs de l'égalité, de la culture. On le voit en tant qu'association, on le voit sur nos autres projets. Et le fait de reporter cette mesure, c'est une manière, en tout cas pour nous, de la mettre sous le tapis et en fait de pouvoir faire des économies sur le budget, sur les 100 millions d'euros dont je parlais tout à l'heure. Ça, c'est la première raison, en tout cas, que nous, on a observée. Mais effectivement, elle peut être liée à la manière avec laquelle est considéré le sujet des règles, en tout cas, enfin, le sujet surtout de la précarité menstruelle, en tout cas par le gouvernement. C'est que c'est... les règles, de manière générale, ne sont pas encore considérées comme un droit. En tout cas, de pouvoir se protéger et de pouvoir avoir les informations et les produits nécessaires pour vivre ces règles de manière digne, ce n'est pas encore considéré comme un droit. Or, ça l'est, parce que ce n'est pas un choix. Et c'est un aspect de la vie de la moitié de la population qui va avoir un impact sur tous les autres aspects de la vie de ces personnes. Donc, il y a aussi cette manière de voir les choses qui fait que quand on veut faire des restrictions, tout de suite on pense à ces sujets qui paraissent annexes ou secondaires. Après, sur la mobilisation citoyenne autour de ce sujet, comme je le disais, sur les 10 ans, on a quand même observé vraiment une mise en lumière de la précarité menstruelle, et beaucoup d'associations se sont rendues compte du poids que c'était et de l'impact que ça pouvait avoir sur les personnes. Aujourd'hui, on est l'association nationale vraiment spécialisée sur les règles, mais il y a plein d'autres associations féministes ou qui sont liées à des sujets, des pathologies autour des règles, qui aussi militent pour cette mesure-là et pour d'autres mesures telles que les congés menstruels, etc. Donc, et aussi, on voit qu'on a un soutien des députés. Par exemple, là, avec l'annonce qu'on a faite la semaine dernière, la campagne qu'on a faite autour de ce report de la mesure, on a eu depuis une semaine plusieurs retours de députés, et notamment, il y a deux questions au gouvernement qui ont été déposées, quand on aura un gouvernement, pour avoir plus d'informations sur le report de cette mesure. Donc je dirais que, en tout cas, la mobilisation, elle ne fait que grandir depuis 10 ans, et elle est présente à toutes les échelles de la société. Après, est-ce que ça suffit ? Pour l'instant, peut-être pas.
Et justement, pour revenir sur le fait que le droit à la non-précarité menstruelle, je ne sais pas trop comment appeler ça, ne soit pas reconnu justement comme un droit, est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi, que répondre à l'argument selon lequel, en fait, l'État n'a pas à prendre en charge cet aspect de notre vie, parce que l'État ne prend pas en charge tous nos autres besoins vitaux et toutes les autres choses qu'on ne choisit pas, par exemple l'alimentation. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça ? Est-ce que le principal argument, c'est celui de l'inégalité entre les femmes et les hommes face à cette question ? Qu'est-ce que vous pouvez nous répondre à ça ?
En fait, les règles, elles ont un impact sur plein d'aspects de la vie et donc plein de sujets. Par exemple, déjà la santé. Depuis plusieurs années, il me semble, le remboursement des préservatifs a été mis en place parce que c'est un enjeu de santé publique, et c'est bien, c'est normal. Mais en fait, les règles, c'est aussi un enjeu de santé publique parce que ça concerne une personne sur deux. Donc en fait, la moitié de la population, on peut considérer que ça atteint l'échelle de santé publique. Et en fait, le fait de ne pas avoir ces protections, comme je disais au début, ça a des conséquences physiques, sanitaires, aussi psychologiques. Et en fait, c'est des conséquences qui vont se répercuter économiquement ensuite sur l'achat de médicaments pour réparer ces premières conséquences sanitaires dues à la précarité menstruelle. Il y a aussi tout l'aspect des pathologies liées aux règles. Aujourd'hui, le diagnostic de l'endométriose, par exemple, c'est quasiment 10 ans d'errance médicale avant d'être diagnostiqué. c'est des pathologies qui n'ont pas assez de recherche, qui n'ont pas assez de financement. Et en fait, ça a un impact sur beaucoup de personnes. Ça a un impact aussi sur tout ce qui est professionnel. En fait, sur la capacité de ces personnes à correctement travailler. Et donc, c'est aussi un intérêt de l'État que d'avoir des personnes qui sont aptes à travailler et correctement, surtout, qui sont en capacité de travailler. Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent potentiellement quitter plusieurs fois le travail par mois, voire être complètement absente plusieurs jours par mois pour douleurs de règles, pathologies ou manque de protection et donc ne pas pouvoir se protéger pour aller au travail. C'est aussi de l'absence scolaire, de l'absentéisme scolaire. Et ça, en fait, le droit, l'accès à l'éducation, c'est aussi une compétence de l'État que de rendre accessible l'éducation à tout le monde. Donc en fait, les règles en soi, c'est peut-être pas considéré comme un intérêt de l'État, mais en fait, ça a un impact sur plein d'aspects qui sont des compétences de l'État. Et c'est vraiment comme ça que nous, on veut le montrer, c'est que c'est un facteur qui va ensuite limiter et freiner plein d'accès pour les personnes qui ont leurs règles.
Et est-ce que vous, en tant qu'association, vous militez pour la gratuité des protections pour tous ou uniquement la prise en charge de la précarité menstruelle? Est-ce que c'est deux revendications qui sont séparées ou qui sont continues?
Alors, pour l'instant, ce qu'on revendique, c'est l'accessibilité des protections, mais pour les personnes qui en ont besoin. Donc, si le frein pour acheter des protections, c'est économique, dans ces cas-là, il faut réduire le prix, voire le rendre gratuit pour les personnes qui n'ont vraiment aucun moyen économique. Si le frein, c'est le manque de connaissances sur toute la diversité de protections, par exemple, dans ces cas-là, il faut renforcer la sensibilisation et la promotion des différents types de protections qui existent pour que ce soit accessible à tout le monde. En fait, nous, vraiment, l'idée, c'est de rendre accessibles les protections et donc, en fonction des besoins et des moyens, ça va être soit de le rendre gratuit, soit de diminuer le prix, etc. Mais pour l'instant, on se concentre sur diminuer ces 4 millions de personnes en situation de précarité menstruelle.
Et donc, que recommande votre association pour l'instant pour faire face à cette précarité menstruelle, au-delà de l'application de l'annonce gouvernementale? Quelles sont vos principales préconisations?
Alors, notre préconisation, c'est que cette prise en charge soit faite par l'État. Pour l'instant, comme ce n'est pas le cas, on trouve d'autres moyens et d'autres méthodes pour essayer de pallier à cette précarité menstruelle. La première, c'est la mobilisation citoyenne. Nous, ce qu'on aime bien dire et ce qu'on veut promouvoir, c'est le fait que les règles concernent tout le monde. Même si on n'a pas ces règles, en fait, on a la capacité de rendre accessible l'information ou des produits périodiques pour les autres personnes qui ont leurs règles. Donc, la mobilisation citoyenne, par exemple, c'est qu'on encourage tout le monde à organiser des collectes ou à venir participer à nos collectes pour collecter un maximum de produits et les redistribuer aux associations. Aujourd'hui, on a plus de 1700 associations sur toute la France et ça augmente de jour en jour. Les besoins des associations augmentent depuis maintenant 2 ans. On voit que les files actives augmentent dans chaque association et aujourd'hui, on collecte 5 millions de protections par an et c'est même pas suffisant pour un seul mois de règles pour toutes les personnes qui sont suivies par ces associations. Donc par exemple, on organise des collectes nationales très régulièrement. Et la prochaine est dans 2 semaines, le 17 et le 18 octobre, dans 70 monoprix dans toute la France. Et on a besoin notamment de beaucoup de bénévoles pour pouvoir animer ces collectes et récupérer un maximum de produits périodiques qui seront redistribués aux associations.
Et donc les associations se sont emparées de ce sujet parce que vous mentionniez au début que les associations qui font des maraudes pour les personnes en précarité dans la rue par exemple distribuaient pas du tout ce genre de produits. Est-ce que ça a changé? Pourquoi c'était pas le cas? Quel est l'état un peu des lieux sur ce sujet?
Alors, quand Règles élémentaires a été fondée, le vrai problème, c'était que donc il y avait un tabou autour du sujet des règles, mais qui faisait qu'en fait le sujet était impensé. En fait, on pensait pas dans les kits d'hygiène, il y avait des rasoirs, il y avait des cotons-tiges, mais on pensait pas tout simplement. En fait, les bénévoles ne pensaient pas aux produits périodiques. Donc aujourd'hui, nous et d'autres associations, on a commencé à semer des graines et à sensibiliser autour de ce sujet. Aujourd'hui, on peut dire que toutes les associations qui luttent contre la précarité menstruelle sont tout à fait au fait de ce sujet et essaient de lutter contre la précarité menstruelle avec leurs moyens et avec leurs méthodes. Aujourd'hui, les moyens sont quand même limités pour toutes les associations. Que ce soit en termes matériels ou financiers. Mais en tout cas, dans le secteur associatif, c'est tout à fait intégré aujourd'hui. Après, on commence maintenant aussi à essayer d'intégrer, par exemple, le secteur de l'éducation pour éduquer à la santé menstruelle, parce qu'aujourd'hui, ces informations, elles sont données soit trop tard à l'école ou pas du tout, et ce qui donne beaucoup de traumatismes pour beaucoup de personnes, notamment sur les premières règles. Mais voilà, secteur après secteur, on essaye de sensibiliser sur le sujet.
Et j'avais une question, à vrai dire, si c'est OK que je la pose, puisqu'au niveau national, on voit que ça continue à buter. Est-ce que vous pouvez potentiellement, vous vous êtes déjà rapproché de collectivités territoriales, de mairies ou de mairies d'arrondissement, en tout cas à Paris, pour faire valoir ces droits, cette gratuité des protections périodiques, mais à un niveau de collectivité territoriale?
C'est ce qui est beau aussi avec ce sujet, c'est que la lutte contre la précarité menstruelle, ça a avant tout été approprié par la mobilisation citoyenne et par les collectivités et les structures locales avant d'arriver aux échelles plus élevées. Aujourd'hui, en Île-de-France, on peut dire que ça a été pris en charge, ou en tout cas, ça a été dans les agendas de beaucoup de collectivités. Par exemple, on a une application qui s'appelle Regla, R-E-G-L-A, accent grave, et qui permet de géolocaliser toutes les mises à disposition gratuites de produits périodiques autour de soi. C'est un peu le Google Maps des règles. Et on a vu grâce à cette application qu'il y avait de nombreuses collectivités qui mettaient en place, par exemple, des distributeurs gratuits, accessibles à tous et à toutes, de produits périodiques, de serviettes et de tampons. Alors, ce qu'on voit aussi, c'est que depuis 2-3 ans, c'est une mesure qui est de plus en plus mise en place par les collectivités et qui commence aussi à être freinée par le manque de budget. Même si on essaye de montrer que c'est un budget qui est assez limité par rapport à l'impact que ça va avoir sur les personnes, malheureusement, les collectivités aujourd'hui doivent aussi faire des choix sur leur territoire. Mais on voit que ça a un vrai impact sur ces collectivités-là, que c'est bien utilisé, que c'est bien accepté par les habitants et habitantes, et que c'est surtout très utile. Et c'est vraiment le premier pas vers la lutte contre la précarité menstruelle. Il y a aussi de plus en plus de facs qui ont mis en place des distributeurs, des entreprises aussi qui prennent en charge la mise à disposition de produits. Il y a de plus en plus de bars, de cafés qui le font. Donc voilà, on voit que c'est avant tout au niveau local que ça se passe, et c'est bien le temps que l'État prenne la main.
Merci beaucoup Lucie d'être venue nous parler de précarité menstruelle. Je rappelle que vous êtes la responsable de l'antenne Île-de-France de l'association Règles élémentaires. Je vous laisse le dernier mot si vous voulez nous dire comment s'engager auprès de l'association ou comment vous suivre tout simplement.
Alors si vous avez envie de nous suivre et de vous engager, je vous invite à aller sur notre compte Instagram Règles élémentaires, déjà pour être informé autour des règles et aussi pour avoir accès à toutes nos missions et nos prochaines collectes si vous voulez participer. Merci.
Merci beaucoup Lucie Larère d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Constance pour ces questions. Cette première partie de la matinale se termine sur Jamin de Ruby.
Jamming like this since 06 with kicks that barely lasted a day. And I felt the rhythm, I made my decision. A question is half is my fate. And I've been rocking big jeans and big dreams and creams that keep the heat my bay. And I felt the rhythm of vipers and villains and watched them as they fly away. I thank my mom and dad cause they were jamming too. One put me onto jazz, the other onto groove. Said tell them sorry for my attitude. So Ruby one and also Ruby two. I've been running through the skies, I've been running my own mind. I've been running since I'm 5, you know. And I never let nobody take off some more shine. Never let me have my time, you know.
I've been sitting by my listening for voices in the rain.
And I've been jamming like this since 06 with kicks that barely lost it a day. And I felt the rhythm, I made my decision, a question, is path is my fate. And I've been rocking hard stairs, padding some bears and glares to scare some people away. And I lost track at 13, yes I've been and seen, and still I'm here to stay.
C'était Jamin de Ruby sur le 93.9.
La matinale de 19h.
Rebonjour, rebonsoir à la matinale, il est 19h36. Hugo, tu nous parles de Sarko ce soir, c'est ça ?
C'est ça ! Est-ce que vous saviez que Nicolas Sarkozy pourrait aller en prison ? Vous étiez au courant ?
Non, pas du tout.
Personne n'a vu. Et oui, forcément, ça fait un peu de bruit, mais pas n'importe quel bruit, le bruit d'Internet. Depuis quelques jours, les pétitions poussent comme des champignons après la pluie. On en a compté plus d'une cinquantaine, 40 rien que sur change.org, une dizaine sur mesopinions.fr et même un site entièrement dédié à lui, acquittement-du-6-sarkozy.fr. Alors, qu'est-ce qu'on lit dans ces textes ? Toujours les mêmes refrains, on s'acharne sur lui parce qu'il est Sarkozy, c'est une honte pour la France, atteinte à la dignité, et certains n'hésitent pas à convoquer l'histoire. On ne veut pas qu'il finisse comme Louis XVI ou carrément comme Pétain. On sent bien que la comparaison est un peu forcée, mais passons. Et puis il y a le grand tournant visuel en 2025, les images générées par intelligence artificielle. Ici, plus question de simples logos ou photos, on a des juges méchants avec des crocs, un dossier vide qui explose et Macron graciant Sarkozy, sauf que Macron ne ressemble pas du tout à Macron. Résultat, certaines pétitions ressemblent plus à une galerie de mèmes qu'à un mouvement citoyen. Prochaine étape, un concours de cosplay judiciaire peut-être. Et comme si ce chaos numérique ne suffisait pas, la famille et les proches entrent en scène. Le fils Sarkozy, bien évidemment Louis d'abord, il déclenche la polémique avec une phrase choc sur les réseaux. On le condamne à 5 ans alors que des gens sous OQTF condamnés 11 fois agressent des femmes et sont dehors. Ambiance mélangée, le sort de l'ancien président et la question migratoire. Fallait oser et il l'a fait. Carla Bruni, fidèle alliée, elle a décidé de monter le son. Elle arrache un micro à Mediapart, scène presque surréaliste, puis publie sur Instagram une vidéo où elle chante Let It Be, version Let Him Free. On n'est plus dans la politique, on est dans le prime time mélodique. Et Karine Le Marchand, jusque-là silencieuse, s'empare du rôle des porte-paroles improvisées. On le condamne à 5 ans alors que des mecs sous OQTF, condamnés 11 fois, agressent des femmes et sont relâchés. J'ai honte pour mon pays. Le tout relayé sur les réseaux comme un soutien médiatique officiel un peu rock'n'roll dans la forme et très sérieux dans le fond. Alors, pendant que la famille fait le show et que les mèmes envahissent Internet et que les pétitions se multiplient, qu'en est-il du procès lui-même ? Nicolas Sarkozy a été reconnu coupable d'association de malfaiteurs dans l'affaire du financement libyen et de la campagne de 2007. Il a été condamné à 5 ans de prison, à une amende de 200 000 euros et à une inéligibilité de 5 ans. Le mandat de dépôt est en effet différé et il est convoqué le 13 octobre pour connaître les modalités de son incarcération. Même en cas d'appel, l'exécution ne sera pas suspendue. Pendant ce temps, les juges se frottent les yeux, les internautes signent et illustrent, le fils poste, Carla chante, Karine s'indigne. Bref, on ne sait plus si on assiste à une bataille judiciaire, à une tournée musicale ou à un prime time de télé-réalité. Et au milieu de tout ça, la vraie question reste posée, Nicolas Sarkozy ira-t-il vraiment en prison ? Mystère, mais en attendant, il a déjà gagné une chose, on ne parle plus que de ses soutiens, qu'on parle plus de ses soutiens que de son dossier.
Merci beaucoup. Hugo, je pense que Karine Le Marchand et Louis Sarkozy tweetent à peu près la même chose.
Oui, ça se ressemble.
Et tout de suite, le Zoom.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
En studio avec nous, Eve-Marie Boucher. Vous venez nous parler du festival Images Mouvementées. Pardon, et vous êtes reçue par Francesca. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Sofiane. Bonsoir Eve-Marie. Alors, vous êtes coordinatrice du festival Images Mouvementées qui débute demain. du jeudi 2 octobre au 16 octobre inclus. Les projections auront lieu au cinéma les 5 Comartin, dans le 9e arrondissement. On est sur la 23e édition. Eve-Marie, pour commencer, pouvez-vous présenter le festival Images Mouvementées en quelques mots ?
Alors, c'est un festival de cinéma qui est organisé par un comité local d'Attaque. Attaque, je ne sais pas si tout le monde situe l'association.
C'est une organisation.
Voilà, association altermondialiste qui s'occupe des questions de justice économique, sociale, écologique, etc. C'est un festival donc qui existe depuis maintenant un certain temps, puisqu'on on attaque la 23e édition. L'idée, c'est donc de faire un vrai festival de cinéma. On est attentif à la qualité cinématographique des films, mais aussi de porter la réflexion. Sachant qu'il s'agit à chaque fois de projections de débat. Les films sont choisis à la fois pour leur qualité, mais aussi pour être support à réflexion, bien sûr sur des sujets qui rentrent dans les thématiques d'attaque.
Eve-Marie, vous avez rejoint ce festival assez tôt, quasi dès le départ. Alors, qui vous êtes et c'est quoi justement votre rôle au-delà de la coordinatrice, mais vous menez toute la programmation, etc. Dites-nous un petit peu ce que vous faites.
Non, je ne suis pas toute seule, pas du tout. j'ai rejoint en tant que bénévole l'organisation du festival à la 2e édition. J'ai participé en tant que bénévole pendant un certain nombre d'années. Et à un moment, il a fallu quelqu'un pour reprendre la coordination. Et voilà, ça a été moi. mais il faut savoir que le festival est organisé par toute une équipe bénévole, pour le coup, et qui, en fait... Le principe, c'est que sur une bonne partie de l'année, on se voit une fois par semaine pour visionner des films et donc établir la programmation, réfléchir au débat, etc.
C'est ce que j'allais dire. Comment ça se passe au niveau des choix des films ? Est-ce que c'est des coups de cœur, mais j'imagine l'unanimité. Expliquez-nous un petit peu comment ça se passe.
L'intérêt justement de se voir pour visionner les films, c'est que on discute directement. C'est pas la même chose que de voir chacun chez soi. On est tout de suite dans la discussion. On peut à la fois sur les qualités du film ou pas, et sur le fait que ce soit un bon support à débat ou non, parce que c'est aussi une question importante. Il y a des films parfois qui peuvent nous plaire, mais qu'on ne sent pas vraiment pour une projection débat. Donc tout ça, c'est des choses. Et puis des fois, il y a des films qui nous plaisent, et puis en fin de compte, on trouve mieux après, et et ils ne sont pas au final dans la sélection.
23e édition, on l'a dit tout à l'heure, déjà, ça veut dire qu'on a quand même une longévité, c'est que ça fonctionne, c'est que ça plaît. Combien d'entrées on enregistre à chaque année ?
En fait, ça dépend, parce que c'est un festival qui a pas mal évolué dans sa forme. Donc, au plus fort, il y a un moment où c'était vraiment sur une semaine complète avec 4 projections par jour. Et donc là, évidemment, on était dans les 3000 et quelques, je ne sais plus combien, 3500 peut-être. Là, on est sur un format qui est quand même plus réduit. Là, cette année, par exemple, on a 5 projections, 5 soirées, plus 2 séances scolaires. Donc, évidemment, on peut pas, on va pas accueillir des milliers de spectateurs. Enfin, on aimerait bien, mais c'est pas possible mathématiquement. Ça dépend. Après, ça dépend des films. C'est vrai que des fois, sur certaines avant-premières, on peut afficher complet, et sur d'autres soirées, c'est un peu plus confidentiel, ça dépend. Mais c'est bien aussi, c'est pas que le nombre de spectateurs qui compte, on essaye d'équilibrer aussi.
Et cette année, quelles sont les grandes thématiques justement qui sera présentée?
Alors, et ben demain, on ouvre avec une avant-première, l'avant-première du film Hors Service, qui parle, qui évoque le saccage des services publics sous l'angle de la souffrance des agents en fait du service public. Et là, en l'occurrence, c'est des personnes qui ont dû fuir tellement c'était douloureux en fait, qui se retrouvent pour essayer de se réparer.
Ce qui est intéressant, justement, il y a la projection. Après, c'est suivi par un débat. Et les débats, c'est avec aussi les spectateurs. Comment ça se passe concrètement?
C'est ça. Alors, le débat, si le réalisateur et la réalisatrice peut être là, c'est bien. Et sinon, on accueille aussi des intervenants spécialistes des questions abordées, qui peuvent être des universitaires, qui peuvent être des responsables associatifs. Enfin, voilà, tout dépend après du sujet. Et donc, le principe du débat, c'est que chaque intervenant prend brièvement la parole pour lancer un peu le débat, soit réagir au film, soit un peu se présenter, en tout cas lancer la thématique du débat. Et assez vite, en fait, on fait circuler un micro dans la salle pour que ce soit vraiment un échange en fait, entre le public et les intervenants.
Et alors, on a vu un peu la programmation, mais oui. Est-ce que vous avez un coup de cœur justement cette année et si vous devez en conseiller un, allez.
Je sais que
vous
aimeriez
bien qu'on aille voir les tous. Mais...
Non, cette année, je n'ai pas un coup de cœur. Ils ont tous leur intérêt, ils ont tous leur qualité. J'aurais du mal à en citer un. On a deux avant-premières qui sont chouettes, donc Hors Service demain et Devant Contre-champ de la rétention, qui parle de la question de la rétention administrative. Avant l'avortement aux États-Unis, gros sujet aussi. Une séance plus écologie sur la question des haies. Et la dernière séance, c'est sur plus une question d'urbanisme et en rapport avec l'immigration. C'est un très beau film aussi. Donc franchement, j'aurais du mal à en citer, en citer un, mais en même temps, c'est que 5 séances, donc venez à tous.
Alors, j'ai vu qu'il y avait aussi des tarifs qui étaient proposés, plusieurs. Le festival, il s'adresse à quel type de public, justement? Parce qu'on peut emmener les enfants sur certaines projections?
Alors, enfants, je n'irai pas jusque-là. Ouais. C'est quand même pas assez thématique.
J'ai 9 ans.
Il y a un tarif moins de 27 ans qui est intéressant. Mais ça s'adresse pas aux enfants. En revanche, on fait 2 séances scolaires pour des lycéens. Et là on est sur le bon âge quoi, pour le lycée. Avant, je dis ça, après l'année dernière, j'ai ma fille qui avait même pas 9 ans, qui est venue à une séance et qui a adoré, mais c'est a priori pas vraiment fait pour les enfants.
Alors, si vous voulez bien, on va définir un petit peu le ATTAC, qui est justement l'organisation altermondialiste, qui est à l'origine de ce festival. Il a l'air d'avoir une place importante dans son identité. Est-ce que vous voulez un petit peu expliquer ce que c'est rapidement?
ATTAC, c'est une association qui a été créée au tout départ pour promouvoir la taxe Tobin, qui est une taxation en fait sur les transactions financières. Donc ça donnait déjà un peu l'ambition qui était de corriger les méfaits du néolibéralisme et de considérer des questions plus humaines, plus sociales, etc. Ça s'est élargi, un petit peu au fil du temps, y compris des thématiques écologiques. Mais après, de toute façon, on est toujours dans les méfaits plus ou moins du néolibéralisme, parce que quand on parle d'écologie, on y est. Quand on parle, même si on parle de féminisme, il y a des relations aussi. Si on parle de, donc c'est, le champ c'est un petit peu ouvert, mais en même temps, on est toujours dans la cohérence des méfaits.
Merci beaucoup Eve-Marie, on a fini, ça a été tellement vite, on a fini. Alors je rappelle juste que la 23e édition du festival Images Mouvementées se déroule du 2 au 16 octobre au cinéma Les 5 Comartins dans le Paris 9e, voilà.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, pardon, merci Francesca pour tes questions. Tout de suite on se met White Line de Gorillaz, pardon, sur le 93.9. C'était White Line de Gorillaz sur Radio Campus Paris.
Le flash info de la matinale de 19h.
Arriveront-ils à trouver un accord ? Demain, un mouvement de protestation à l'initiative de l'intersyndicale se tiendra dans toute la France. C'est la troisième journée de mobilisation de ce mois de septembre, la deuxième à l'initiative des syndicats. Ces derniers avaient appelé à manifester le 2 octobre au sortir de la réunion avec le Premier ministre Sébastien Lecornu. C'était le 24 septembre. Les deux parties n'avaient pas réussi à se mettre d'accord sur des concessions à envisager pour le budget. Cette mobilisation vise donc à de nouveau faire pression sur le gouvernement. Si celle du 18 septembre avait vu entre 500 000 et 1 million de personnes se joindre au mouvement, une affluence moindre est prévue pour demain. La SNCF annonce de légères perturbations sur les trains régionaux, intercités, transiliens et RER. 10% des enseignants du premier degré prévoient d'être en grève selon les syndicats du corps professoral. 3400 pour un pull, 200 pour des chaussettes. Il ne s'agit pas ici de prix, mais d'exemples de scores d'impact environnementaux que se verront attribuer les vêtements neufs à partir d'aujourd'hui. C'est la conséquence de l'entrée en vigueur de l'éco-score en France après validation de la Commission européenne. Ainsi, plus un vêtement aura un impact environnemental fort, plus son score sera élevé. À titre d'exemple, un jean de fast fashion affichera un éco-score de 5000 points contre près de 5 fois moins pour un jean made in France. Ce nouveau label compte 16 critères, dont la consommation d'eau, les émissions de gaz à effet de serre ou encore la durabilité et les atteintes à la biodiversité. L'affichage se fera sur la base du volontariat. À l'international désormais, c'est une première depuis 2018. Les États-Unis entrent en situation de shutdown. Une partie de l'administration fédérale sera donc à l'arrêt, mettant 750 000 fonctionnaires au chômage technique dans les prochains jours. Cette situation fait suite à l'incapacité des Républicains à obtenir la majorité nécessaire au Sénat lors du vote du budget. Les départements gouvernementaux essentiels ne seront pas touchés dans l'immédiat. En revanche, si la situation venait à perdurer, les branches comme la justice, l'aérien ou la santé seront fortement perturbées. Le dernier shutdown qui avait eu lieu sous la présidence de Donald Trump avait duré 35 jours, c'était un record. Le président américain a par ailleurs déclaré que les démocrates, je cite, « veulent tout fermer, nous ne le voulons pas ». Et enfin, l'actualité sport pour terminer ce flash info avec le football. Le Paris Saint-Germain se déplace ce soir à Barcelone pour affronter le club de la capitale catalane. C'est pour le compte de la deuxième journée de Ligue des Champions. Le PSG voyage léger, de nombreux joueurs importants sont blessés. L'infirmerie parisienne compte notamment dans ses rangs le ballon d'or Ousmane Dembélé, le capitaine Marquinhos ou encore Désiré Doué. Mais l'entraîneur Luis Enrique ne cède pas à la panique. « Tu peux avoir des excuses ou des résultats et nous on veut des résultats, quels que soient les joueurs qui jouent », déclarait-il hier en conférence de presse. L'affiche est à suivre à partir de 21h sur Canal+.
Merci beaucoup Félix.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Et Éloane, toi ce soir, tu nous parles de cinéma.
Oui, bonsoir Sofiane, bonsoir Radio Campus. Aujourd'hui, c'est ma première émission, enfin ma première chronique. Du coup, je suis trop contente de vous retrouver. Un des trucs que j'adore faire quand je vais au ciné, c'est regarder les bandes-annonces. Et le seul souci de nos jours, c'est que chez les grandes chaînes de ciné comme Pathé ou UGC, les bandes-annonces sont saturées de pubs qui durent 15 à 20 minutes. Donc j'ai le temps de mourir trois fois la bouche ouverte avant d'avoir enfin des trailers à mettre sous la dent. Je pense qu'il faut absolument qu'on parle du coup des bandes-annonces des films français qui sont sortis ces dernières semaines, parce que j'en ai gros sur la patate. Je commence par Dalloway de Yann Gozlan, sorti le 17 septembre. Le trailer vend un film plutôt pas mal dans un futur dystopique. Pendant l'explosion d'un virus, on a une autrice qui s'appelle Clarissa, qui est interprétée par Cécile de France, qui est en perte d'inspiration. Et en fait, elle visite une résidence d'artiste. On lui attribue une IA qui s'appelle Dalloway, dont la voix est celle de Mylène Farmer. Et en fait, progressivement, son IA prend son indépendance et se permet de penser à sa place et de puiser dans son passé pour prendre le contrôle de la vie de Clarissa. Le film a l'air un peu cheap visuellement, mais l'histoire, elle est accrocheuse, en mode remake des dystopies 2010 à la Divergente et Labyrinthe. Au final, la bande-annonce nous promet de la rébellion et un mouvement anti-système. Bah, sachez que si vous comptez y aller pour ça, n'y allez juste pas, sauf si vous voulez entendre Mylène Farmer en ChatGPT. Passons maintenant à un deuxième film de Lucas Bellevaux, sorti également en ce jour maudit du 17 septembre, à l'affiche Nils Schneider, Lindin Pham et Ramzy, qui semble s'être glissé dans tous les films français de 2025. Quand pour la première fois j'ai vu ce trailer, je me suis tournée vers mon pote pour lui dire ça, ça a l'air génial. La bande-annonce nous promet une chasse à l'homme pleine de suspense. Une riche veuve dont le hobby est la chasse vient demander à un vétéran SDF s'il veut bien être sa proie. S'il tient un certain temps caché dans les montagnes sans qu'elle le trouve, il gagne une immense somme d'argent. Par contre, si elle le trouve, autant vous dire qu'ils ne vont pas faire une partie de claquettes. Comme vous le voyez, le plot de la bande-annonce a l'air vraiment intriguant et dynamique. Dès l'instant où ça a parlé de survie, j'ai logiquement pensé à Hunger Games et j'ai trouvé l'angle vraiment sympa. Et ben en fait, que nenni, puisque sans vous spoiler, le film se concentre sur la réflexion et le dilemme de l'ancien militaire. À l'origine, il veut accepter, mais plein de nouveaux facteurs entrent en compte et le font douter sur sa décision. On suit donc 1h53 d'hésitation et des sourcils froncés de Ramzy. Autant dire que c'est pas un des films les plus divertissants de sa génération. Je vais pas non plus élaborer sur Rembrandt qui est sorti le 24 septembre. Je l'ai pas encore vu, mais malgré les horribles critiques, je suis vraiment curieuse puisque Romain Duris joue dedans et que c'est un de mes acteurs préférés en toute subjectivité depuis que j'ai vu L'Arnaqueur quand j'étais petite. Dites-vous, il est à 2,2 sur Allociné qui a mieux noté les Tuches 5. Donc c'est pour dire que ça m'a pas l'air très prometteur. La bande-annonce est très vendeuse et intéressante, mais j'ai un peu peur de ce que ça va donner du coup. En conclusion, il s'agirait d'arrêter ce genre de cinéma français pseudo-dystopique, ou du moins, soyez honnête dans vos bandes-annonces, dites que vos films sont nuls, parce que j'en ai marre de penser que je m'apprête à voir une Porsche 911 pour m'apercevoir dépité que c'était qu'une Fiat Multipla.
Ou tout simplement, arrêtez d'aller au cinéma. Mais merci beaucoup, Éloane. Merci tout le monde. C'est déjà la fin de la matinale. On pleure ici en studio, vous pleurez chez vous. Je le sais, je vous entends. On se quitte quand même dans la joie et la bonne humeur, car les décorations de Noël sont enfin accrochées. Merci à nos invités, Lucie Larère et Eve-Marie Boucher. Merci aux bénévoles avec nous ce soir, Constance, Francesca, Hugo, Éloane, Félix, David à la réalisation, Aude et Jeanne à la coordination. Tout de suite, le Mondigo Mastic. Restez branchés, car j'y participe. Simon, qu'est-ce qu'on n'invite pas ce soir ?
Le monde zygomastique.
Oui, exactement.
D'accord. Eh ben, il t'astiquera avec Carla Bruni-Sarkozy.
Voilà. Carla Bruni-Sarkozy qui ne sera
Sofiane.
Pas avec nous ce
qui
soir.
Qui ne sera pas avec
bonsoir,
nous, bien sûr.
Simon, restez branchés. Hein. See you
later. Le monde zygomastique, hein, sinon vous ne comprendrez pas.
See you later. Ouais.